Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Aujourd'hui, comment l'économie russe se tourne vers la guerre? Alors, il y a 15 jours, les pays occidentaux ont adopté un 8e paquet de sanctions contre la Russie à la suite de la récente annexion par Moscou de plusieurs régions ukrainiennes. Mais l'évaluation précise de la santé de l'économie russe reste difficile. Sur le site de Rostat, l'agence des statistiques russes, les chiffres des importations et des exportations sont restés bloqués au début de l'année et les rapports mensuels sur la production de pétrole, le trafic aérien ou l'état de santé des banques ont disparu. Moscou n'avait pas imaginé que le conflit dure. Résultat, les autorités ont pris des mesures pour orienter le pays vers une économie de guerre. Alors pour en parler, nous sommes ce matin avec David Turtry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie, chercheur associé au Centre de Recherche Europe-Eurasie, le CREE de l'INALCO, et actuellement en poste dans le Sud-Caucase. David Turtry, la mobilisation partielle qui a été imposée par le Kremlin fin septembre dernier pour inverser le cours de sa guerre dans l'est de l'Ukraine et dont les estimations avancent d'ailleurs qu'elle serait parvenue dans des conditions assez chaotiques à recruter entre 300 000 hommes et 1 700 000 selon le journal d'opposition en exil Novaya Gazeta. Eh bien, cette mobilisation partielle, elle pourrait avoir des conséquences sur l'économie. Est-ce que certains secteurs stratégiques sont désormais dépouillés de leur main d'œuvre?
Alors, elle aura des conséquences sur l'économie parce que c'est une mobilisation, comme on le voit, qui touche plusieurs centaines de milliers de personnes. Dans une économie, dans un pays qui connaît une crise démographique depuis 30 ans et pour lequel le marché du travail est relativement tendu. C'était le cas notamment avant la crise, hein, c'est-à-dire qu'on a des secteurs dans lesquels on avait déjà une pénurie de main-d'œuvre avant le début du conflit. Donc prélever plusieurs centaines de milliers d'hommes sur cette économie, ça aura forcément un impact. En principe, les autorités ont prévu des exceptions. Hein, un grand nombre de catégories ne devraient pas être mobilisées, mais la réalité de la mobilisation semble un petit peu différente. Il y a notamment, là je regardais ce matin, dans le secteur bancaire, qui réclamait de ne pas être concerné par la mobilisation. Or, pour l'instant, l'armée russe fait la sourde oreille et continue à mobiliser dans ce secteur. Ça n'est qu'un exemple. Donc, il y a non seulement les principes qui sont annoncés, mais la réalité de terrain qui semble un peu différente. Et c'est ce que reconnaissent les autorités russes par ailleurs. Une mobilisation n'a pas eu lieu depuis 80 ans en Russie, donc ça fait un bout de temps. Et donc c'est un exercice très très compliqué à mettre en place.
Est-ce que c'est sans compter aussi les centaines de milliers de Russes qui ont fui le pays dans la catastrophe de ces dernières semaines, hein, enfin qui ont fui le pays en catastrophe ces dernières semaines? Est-ce que justement la situation démographique de la Russie et cet exode fragilise d'autres secteurs, je pense notamment donc aux technologies, mais peut-être aussi l'industrie minière dans l'est du pays?
Alors, c'est effectivement, en général, ce sont depuis le début du conflit, hein, parce que il y a eu d'autres départs précédemment. Depuis le début du conflit, ce sont plutôt ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les élites, hein, qui quittent le pays, en partie une partie d'entre elles en tout cas, ceux qui sont dès le départ qui étaient opposés à la guerre et qui ne se voyaient pas rester dans la Russie de Poutine dans le cadre de ce conflit, ceux qui effectivement, dès les premiers mois, ont craint une mobilisation, alors que les autorités affirmaient que ce ne serait pas le cas. Cette mobilisation, elle a bien eu lieu. Donc ça, c'est effectivement, ça peut toucher notamment des secteurs comme les hautes technologies, l'informatique, des secteurs dans lesquels la population est assez mobile, peut trouver relativement facilement du travail à l'étranger. Par contre, pour le secteur minier, je suis plus dubitatif parce que ce ne sont pas, on n'a pas là affaire à des secteurs dans lesquels les travailleurs sont fortement mobiles.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc les conséquences de la mobilisation viennent s'ajouter à celles des sanctions internationales. Il y a un huitième paquet, je le disais, qui a été adopté jeudi dernier, après les référendums illégaux d'annexion des régions du Donbass. Et pourtant, dans l'attente de l'entrée en vigueur en décembre de l'embargo sur les importations d'hydrocarbures, le pétrole et le gaz, l'économie russe semble résister tant bien que mal à ces chocs successifs. Comment l'expliquer, David Tortry?
Alors effectivement, hein, ça c'est intéressant parce qu'au début du conflit, on attendait un petit peu une situation quasiment inverse, c'est-à-dire une armée russe très puissante qui aurait qui avancerait rapidement en Ukraine et puis une économie qui serait touchée de plein fouet par des sanctions extrêmement fortes de la part des Occidentaux. Et au bout de quelques mois, on s'aperçoit que c'est un petit peu l'inverse. Hein. L'armée a des difficultés face à une mobilisation occidentale par ailleurs extrêmement forte en termes de livraison d'armes. Et par contre, l'économie, c'est là la surprise. C'est-à-dire qu'au fil des mois, les statistiques qui nous parviennent au compte-gouttes, mais aussi les croisements qu'on peut faire avec les statistiques étrangères, hein, en termes de commerce extérieur et de santé de l'économie dans son ensemble, eh bien, elles sont plutôt relativement bonnes, en tout cas beaucoup moins graves que ce qui avait été prévu au début du conflit. On peut l'expliquer d'une part par l'effet paradoxal des sanctions qui a été largement souligné, c'est-à-dire ces sanctions, elles ont créé des pénuries qui permettent à la Russie de vendre moins d'hydrocarbures, moins de matières premières, mais à des prix beaucoup plus élevés qu'auparavant, donc des revenus qui restent élevés. Et puis une économie qui est sous sanction depuis 2014. Hein, donc les autorités ont pris des mesures progressivement pour la rendre plus robuste aux sanctions, notamment dans le secteur financier. Hein, c'est le secteur dans lequel ça a été vraiment le plus efficace.
Les sanctions semblent affaiblir considérablement le complexe militaro-industriel russe. Par exemple, les conglomérats comme celui de Rostec qui fabrique du matériel d'aviation, des armes ou des moyens de communication qui sont en première ligne dans la production de matériel militaire. Comment ce conglomérat a été affaibli ces dernières semaines et qu'est-ce que ça entraîne comme difficulté sur le front en Ukraine?
Alors là, on touche à, évidemment, vous l'imaginez bien, un secteur dans lequel les statistiques et l'information de manière plus générale est encore plus difficile à obtenir que pour le reste de l'économie russe. Donc il est assez compliqué de savoir ce qu'il en est réellement. Ce qui est certain, c'est que les Occidentaux ont visé spécifiquement ce complexe au travers d'interdictions d'exportation dans tous les domaines sensibles et notamment dans les composants, tout ce qui est composants électroniques, semi-conducteurs. Donc toute la question est de savoir dans quelle mesure la Russie parvient partiellement au moins à contourner ces interdictions, à s'approvisionner à l'international auprès de pays amis.
Et c'est le cas.
Et puis toute la... Alors, eh bien, ça, c'est difficile à savoir parce que justement, les schémas, vous l'imaginez bien, sont opaques au maximum. Ce qui est certain, c'est que on a des informations qui nous disent que certaines usines tournent à plein régime, à telle enseigne que le pouvoir a pris des mesures législatives pour obliger, si nécessaire, les ouvriers, les travailleurs de ces usines à avoir des cadences renforcées, à ne pas prendre de congés. Donc certaines usines tournent à plein régime, d'autres ont semble-t-il plus de difficultés. Et effectivement, sur le terrain, on constate que l'utilisation dans les premières semaines, les premiers mois de missiles de croisière, de missiles de précision est beaucoup moins importante à l'heure actuelle. Il faut aussi se poser la question des capacités de ce secteur militaro-industriel intrinsèque à produire en très grande quantité dans le cadre de ce conflit, parce que ça n'est pas forcément qu'une question de composants, c'est aussi une question de capacité. On le sait bien, en Occident même, on sait que notre propre secteur ne va pas pouvoir suivre le rythme de ces livraisons, en tout cas dans certains pays. Or, la Russie doit soutenir un effort de guerre pour faire face à pratiquement à l'ensemble de l'Occident, hein, qui livre des armes à l'Ukraine.
C'est ça, hein, c'est que l'industrie, le complexe militaro-industriel russe est seul face à l'Occident, comme vous le disiez. Alors, vous l'avez évoqué aussi, le Parlement russe a adopté, il y a quelques mois, en juillet, un arsenal législatif de manière à faire tourner donc les usines d'armement à plein régime. Quelles sont ces mesures? Vous les avez évoquées, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que, d'ailleurs, on peut estimer si elles portent leurs fruits?
Alors, ces mesures, c'est en quelque sorte une mise en forme législative de mesures qui avaient déjà été prises en interne par Rostec notamment. Hein, l'idée, c'est de pouvoir faire tourner les usines 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des employés qui peuvent être amenés effectivement à voir leur week-end rongé ou supprimé et leur congé également remise en cause.
Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on sait quelle a été la réaction des employés de ces usines ou c'est plus compliqué?
Là, en l'occurrence, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Par contre, il y a une deuxième élément important, c'est que ce paquet législatif prévoit aussi que les usines des fournisseurs qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas rattachés forcément directement au complexe militaire industriel, qui peuvent produire des biens civils, mais qui ont aussi des biens qui peuvent fournir, elles peuvent être amenées à être contraintes de ne produire que de produire exclusivement ou en tout cas en priorité pour ce complexe. Hein. L'idée, c'est que et donc là, on a effectivement un début de mobilisation de l'économie vers une économie de guerre, même si ça reste quand même pour l'instant difficile de mesurer dans quelle mesure l'économie russe s'est restructurée autour du complexe militaro-industriel.
Mmh. David Tortry, maintenant si on se place à l'échelle un peu plus macroéconomique ou même financière, malgré les sanctions, donc l'économie russe s'est maintenue, c'est ce qu'on a vu, l'inflation a été régulée, elle est repassée en dessous de 15% en juillet. Quel a été le rôle de la Banque centrale et aussi de quelles réserves le Kremlin dispose aujourd'hui pour continuer à financer la guerre?
Alors, la Banque centrale, effectivement, qui est dirigée par ce qu'on appelle une libérale systémique, hein, on parle de libéraux systémiques en Russie, c'est-à-dire ces libéraux qui ont accepté de continuer à travailler dans le cadre du régime Poutine, a fait, il faut bien le dire, un très bon travail. On se rappelle hein, du début du conflit où nos responsables politiques hein, en Occident affirmaient que le rouble était fini, il s'était effondré. Eh bien, le rouble, il a repris, non seulement il a repris son cours précédent, mais maintenant il est même plus élevé qu'avant le début du conflit. Bon, il y a plusieurs explications à ça, mais on constate bien une efficacité de la politique monétaire. Cette politique monétaire et ce renforcement du rouble, il a permis effectivement à l'inflation qui avait au départ été très forte de régresser ces derniers mois. Et ça a permis par ailleurs à la Banque centrale de baisser ses taux. Ils sont maintenant inférieure à la situation d'avant le conflit. Donc il y a une véritable efficacité dans le domaine financier. Et pour ce qui est des ressources, des réserves
ouais.
Elles ont été fortement touchées au début du conflit parce que l'Occident a quand même gelé à peu près la moitié de ses réserves qui étaient libellées dans les monnaies occidentales. L'autre moitié, elle reste aux mains des autorités, c'est-à-dire ces réserves libellées en yuan et en or hein, aussi, parce qu'il y avait une politique très, très volontariste d'achat d'or dans la dernière décennie. Donc ça, c'est un peu le trésor de guerre du Kremlin. Et puis aussi, la Russie est un des pays, en tout cas était avant le début du conflit, l'un des pays les moins endettés de la planète. Elle a donc une marge de manœuvre relativement importante et elle parvient pour l'instant à s'endetter sur le marché intérieur.
Effectivement, et d'ailleurs ces autorités qui ont aussi réussi à maintenir le cours du rouble stable ces derniers mois. Merci beaucoup David Tortry, je rappelle que vous êtes docteur en géographie, chercheur associé au centre de recherche Europe-Eurasie, CREE de l'INALCO et actuellement en poste dans le Sud-Caucase. France Culture.
l'esprit d'ouverture.